Prosenectute et son shop de moyens auxiliaires au passage du Cardinal à Fribourg vous présentent Radio Fribourg,
Coin de ciel avec Sœur Marie-Pierre.
Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Fribourg. En ce quatrième dimanche de l'Avent, nous allons voyager. Et oui, encore une fois, nous allons prendre l'avion. Ce matin, je suis en compagnie du Père Ludovic Nobel. Bonjour et merci d'être notre guide tout au long de notre voyage. Vous êtes né en 1978. En 2005, vous êtes ordonné prêtre et depuis 2006, vous appartenez à la Société missionnaire de Bethléem. Quel est le charisme de cette société ?
La Société missionnaire de Bethléem est une communauté qui a été fondée à la toute fin du 19e siècle pour envoyer, disons, dans le but de la mission à l'extérieur. C'est l'époque où de nombreuses congrégations sont fondées et puis de nouveaux territoires sont attribués à chacune de ces communautés. Et pour la Suisse, eh bien, nous étions la société des missions étrangères, si l'on veut, de la Suisse, mission à l'extérieur, mais également éveil de la conscience missionnaire ici, en Suisse, notre pays d'origine.
Vous avez des contacts avec la Société des missions étrangères de Paris ?
Nous avons des contacts avec la Société des missions étrangères de Paris et les autres 14 autres communautés qui font partie de ce qu'on appelle la MISAL, l'association des communautés missionnaires, qui sont au nombre de 14 dans le monde à ce jour, comme les Pères Blancs aussi par exemple.
Vous enseignez le Nouveau Testament à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure et pour quel genre d'étudiant ?
Alors j'ai commencé à enseigner le Nouveau Testament à l'université. J'ai d'abord, parce que j'ai moi-même fait des études de théologie, j'ai fait des études sur l'apôtre Paul, un doctorat sur Paul et la question de la liberté, de l'esclavage. Et j'étais d'abord assistant, et puis finalement, cette perspective s'est proposée à moi. L'enseignement m'a toujours intéressé également et attiré. Les étudiants, eh bien, que l'on a à la faculté de théologie, c'est très divers. Nous avons bien sûr des séminaristes d'ici et d'ailleurs, des religieuses et des religieux de diverses communautés, de un peu du monde entier qui viennent à Fribourg, mais aussi beaucoup de laïcs, de jeunes étudiants qui ont un intérêt pour la théologie et qui souhaitent faire soit un parcours complet ou soit suivre un certain nombre de cours, dont la Bible et le Nouveau Testament en théologie.
Et en plus, deux fois par an, vous accompagnez des pèlerins pour des voyages bibliques en Terre Sainte. Et récemment, vous avez publié aux éditions du Cerf un ouvrage intitulé « Jésus et son monde ». En le parcourant, bien sûr que je ne m'attendais pas à découvrir une biographie de Jésus. Mais j'ai tout de même été un peu surprise d'y trouver, parce que votre livre ne fait que 189 pages, Et sur la première centaine de pages, il y a tout un éclairage historique, religieux. Pourquoi vous y avez donné tant d'importance ?
Alors ce livre, dans le fond, est né de mon expérience à la fois comme enseignant. J'enseigne le milieu biblique et puis effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'accompagne des voyages en Terre Sainte depuis une dizaine d'années. Et donc de ces deux expériences, est né ce petit livre qui se veut un peu comme un guide, c'est vrai, surtout dans la dernière partie, la troisième partie, où on suit les pas de Jésus sur le plan d'un évangile. On le suit dans le parcours qu'il a vécu de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais l'idée qu'il a derrière, c'est que si on veut bien comprendre Jésus, si on veut bien comprendre le Nouveau Testament, il faut d'abord comprendre le milieu dans lequel il a vécu. Il a vécu à une époque précise, dans un monde donné, cette Palestine, cette Judée. Il a vécu aussi dans cette région qui a été dominée par l'Empire romain à l'époque. Donc il faut bien comprendre ce contexte-là, la dynastie des Hérodes, qui était aussi importante. Et puis en même temps, donc ça c'est une partie historique effectivement, puis une partie religieuse, parce que Jésus lui-même était juif. Cette religion, on la connaît de manière indirecte. Nous, chrétiens, on vient du judaïsme, si on veut, mais il y a beaucoup de rites, beaucoup de coutumes qui sont décrits dans le Nouveau Testament, qui nous sont inconnus, qui sont peu clairs pour la plupart des lecteurs du Nouveau Testament aujourd'hui. Puis à côté de ça, il y a encore la religion romaine, puisque l'Empire romain était là, qui donnait des tensions avec le judaïsme et d'autres mouvements religieux que je décris, comme des courants de philosophie ou encore les religions à mystère grec. Tout cet éclairage est là pour nous aider à mieux comprendre Jésus et le Nouveau Testament.
Père Ludovic, dans quelques jours, nous fêterons Noël. Depuis combien de temps et pour quelle raison cette date a été fixée au 25 décembre ?
Dans l'Antiquité, la date de naissance était inconnue pour la plupart des personnes. Donc on ne se souciait pas, comme on le fait aujourd'hui, de savoir quand quelqu'un est né, à quel jour et à quelle date. Et ce qui veut dire que dans le fond, pour dire les choses un peu, d'une manière peut-être un peu brusque, mais nous avons une chance sur 365 que Jésus soit né le 25 décembre. Il s'avère que si la date de Pâques a très tôt été fixée dans le calendrier fêté par les chrétiens, il faudra attendre le 4e siècle, 354 pour être précis, pour qu'on ait la première trace d'une fête de Noël célébrée le 25 décembre. Et il s'avère que, encore aujourd'hui, la date du 25 décembre correspond plus ou moins au solstice d'hiver. Et dans l'Empire romain, il y avait une grande fête le 25 décembre, une fête qui était consacrée au Sol Invictus, au soleil invaincu. Parce que l'on sait qu'à partir de décembre, on a plusieurs fêtes, la fête de Sainte-Lucie, le soleil commence à reprendre un peu de sa force. Et donc on célébrait ce retour de ce soleil invaincu. Et pour les chrétiens, c'était la manière de marquer que le soleil invaincu, ce n'est pas un empereur, comme on peut le voir sur l'arc de Constantin à Rome, où l'empereur est représenté avec cette inscription « Sol Invictus », mais le soleil invaincu pour le chrétien, c'est bien sûr Jésus le Christ, le Seigneur.
Parmi les quatre évangélistes, seuls saint Matthieu et saint Luc relatent la naissance de Jésus, et encore avec des récits différents. Alors pourquoi ?
Il faut se rappeler que nos évangiles ne sont pas avant tout des vies de Jésus, ce ne sont pas des biographies. L'aspect biographique, même s'il est présent, n'était pas primordial, n'est pas premier, mais si on veut secondaire pour les évangélistes. Avant tout, ce que les évangélistes devaient faire, c'était transmettre la foi qu'ils habitaient eux-mêmes, leur foi, ils voulaient la transmettre aux auditeurs, aux lecteurs de leurs évangiles respectifs. Et alors, dans ce sens-là, ils n'ont pas été très attachés à nous donner tous les détails de la vie de Jésus. Si on regardait, par exemple, la mort de Jésus en croix, eh bien, on a finalement assez peu de détails, si ce n'est certains détails qui viennent confirmer des passages de l'Écriture de l'Ancien Testament, comme le fait que l'on tira ses vêtements au sort, qui correspondent à une prophétie de l'Ancien Testament. Alors ça, il le relève, mais beaucoup d'autres détails sur les sentiments, la souffrance de Jésus, ne sont pas redonnés dans nos évangiles, parce que leur but était de montrer que Jésus correspondait aux prophéties de l'Écriture, mais pas de nous peindre un tableau, peut-être comme l'ont fait par la suite tant d'artistes de la Renaissance, ou comme l'ont fait des cinéastes ou des romanciers, où il y a beaucoup plus de détails. Alors pour revenir maintenant au récit dit de l'enfance, Luc et Matthieu ont choisi de nous redonner ce cadre, ce que n'a pas fait ni Marc ni Jean. On sait que Marc est le premier des évangiles, et il va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le message de Jésus, à savoir son ministère, sa prédication, sa mort et sa résurrection. Et puis, Matthieu et Luc donnent cette introduction, eux, quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, ils écrivent l'évangile respectif, et nous donnent ces détails, mais dans l'idée surtout de nous rappeler, que ce Jésus de Nazareth, il est le Fils de Dieu, non pas simplement depuis son entrée en ministère ou depuis son baptême, ça serait Marc qui nous dit cela, que Jésus est Fils de Dieu dès son baptême, mais il est le Fils de Dieu dès sa naissance. Quant à Jean, il a une démarche différente, il ne parle pas de l'enfance, mais il nous donne ce très beau prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était chair, et il a demeuré parmi nous. Et si on veut bien dire, il nous dit qu'au commencement déjà était le Verbe. Donc il va plus loin encore que Matthieu et Luc, parce qu'il nous dit que Jésus était le Fils de Dieu, non pas dès sa naissance, comme l'affirme Matthieu et Luc, mais dès le commencement, dès la création du monde, en même temps que le Père. Donc il y a comme un peu une chronologie où on remonte toujours plus loin dans la pensée théologique, et on se dit, ce Jésus, il est le Fils de Dieu, non pas depuis son baptême, non pas depuis sa résurrection seulement, mais dès sa naissance et même depuis le début du monde, depuis la création.
Vous êtes sur les ondes de Radio Fribourg. En ce quatrième dimanche de l'Avent, je suis en compagnie du père Ludovic Nobel, auteur du livre « Jésus et son monde ». Dans l'évangile que nous lirons dans la nuit du 24 au 25, en Saint-Luc chapitre 2, il est question de mangeoires, de bergers, d'anges, d'enfants emmaillotés, couchés dans la mangeoire. Tous ces détails font penser que nous étions présents sur les lieux. Quel message l'évangéliste veut donner au monde d'aujourd'hui ?
Alors, effectivement, nous avons ces deux récits de l'enfance que nous allons relire dans la nuit de Noël. Et nous avons le passage de Luc qui nous parle de cette mangeoire, de ces bergers qui veillaient leurs troupeaux. Nous avons ce récit de la nuit de Noël. Et puis nous avons un autre récit de Matthieu qui lui met en scène plutôt des mages venus d'Orient. Il y a beaucoup de détails. Ces récits sont un peu... On peut un peu les lire comme un beau conte. C'est vrai qu'on aime les entendre, les réentendre. Il y a une espèce de magie qui se passe quand on ne se lasse jamais de ces textes. En même temps, c'est vrai que les évangélistes n'étaient pas présents à ce moment-là. Et si on compare Matthieu et Luc, on verrait qu'il y a bien des différences. Les récits sont des récits parallèles, mais qui ne se recoupent pas forcément. Le message central qu'il veut nous transmettre, ce n'est pas ce décor extérieur qui peut être beau, qui a eu beaucoup de succès, qui est encore aujourd'hui, avec les crèches, avec tout ce qui tourne autour de Noël. Mais le message central et sur lequel tous deux se rejoignent, c'est pour nous dire que cet enfant est né à Bethléem, de la famille, de la tribu de David. Il est descendant du roi David. Il est né de Marie d'une manière extraordinaire, puisqu'il est l'œuvre de l'Esprit-Saint, et il n'est donc pas né d'une relation sexuelle entre Marie et Joseph. Et puis ils nous disent que ce petit enfant, dans cette crèche, dans cette mangeoire, eh bien, il est le Fils de Dieu. Ce texte-là, et ce message-là est le message central. Et c'est un message que les décors de Noël, aussi beaux soient-ils, ne doivent pas nous faire oublier. Pour les gens d'aujourd'hui, pour le lecteur d'aujourd'hui, eh bien peut-être que c'est une invitation à revenir à l'essentiel du message de Noël. Toutes nos coutumes sont la coutume du sapin, la coutume de la crèche, la coutume du vin chaud, sont très belles et on y tient beaucoup, mais elles ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel, cet enfant qui naît dans la nuit, dans la simplicité, cet enfant Dieu qui se fait solidaire avec notre humanité, avec chacun de nous dans cette nuit de Noël. Et peut-être que cette année où les fêtes seront un peu particulières, où on ne pourra pas se rassembler et fêter comme on a l'habitude, eh bien, sur l'occasion propice pour revenir plus profondément au sens premier de Noël. Une fête de la solidarité, une fête de la rencontre. Dieu qui vient nous rencontrer l'homme, mais aussi nous, eh bien, nous pouvons rencontrer nos frères et sœurs en humanité.
Ludovic, sur les lieux qui ont vu naître Jésus, une basilique a été construite. Comment la présentez-vous en la faisant découvrir aux pèlerins et maintenant à nous qui vous suivons au travers de votre livre ?
Alors cette basilique, eh bien, elle a une particularité en Terre Sainte parce que il y a de nombreuses églises en Terre Sainte que l'on peut visiter lors d'un pèlerinage. Et ces églises, eh bien, pour la plupart, remontent au 19e siècle, 20e siècle. Les plus anciennes datent de l'époque des croisades, des croisés, autour de l'an 1000. Il y avait des églises plus anciennes qui avaient été construites par l'empereur Constantin et sa maman Sainte-Hélène, qui, au moment où l'Empire romain devient chrétien, eh bien, vont construire des basiliques sur les principaux lieux de culte en Terre Sainte, comme ils l'ont fait à Rome, sous par exemple les tombeaux des apôtres Pierre et Paul. Mais ces églises, eh bien, paléochrétiennes du IVe siècle, ont été détruites en 600 par les Perses, juste avant l'arrivée des musulmans. Une seule basilique, une seule, a été conservée jusqu'à nos jours, et c'est justement celle de la Nativité. Ce qui en fait une des églises les plus anciennes au monde, une des églises les plus touchantes de ce fait-là, parce qu'elle est restée dans sa forme qu'elle avait déjà pratiquement depuis le IVe siècle inchangée. Et si elle est restée préservée, c'est que justement quand les Perses sont arrivés en 600 à Bethléem, eh bien en arrivant à la Nativité, ils ont aperçu qu'il y avait une représentation des mages sur cette église, avec le bonnet phrygien, bonnet perse, et ils ont reconnu dans ces personnages eh bien, leurs ancêtres, et ils ont préservé cette église. De même, par la suite, les musulmans ne l'ont non plus pas détruite, ils l'ont préservée. Et quand on entre à Bethléem, eh bien, dans la basilique de la Nativité, il faut se faire petit, il faut se faire humble. La porte est minuscule. Impossible à un homme même de petite taille d'y entrer sans se baisser, sans s'accroupir. La porte est très petite. Et cette porte, eh bien, elle a été murée, parce qu'on voit les restes d'une porte plus grande, mais elle a été murée par les musulmans, qui ne supportaient pas bien que dans l'endroit où le prophète Jésus était né, les gens entrent à cheval au Moyen-Âge, à l'époque. Et donc, ils ont muré cette porte, et jusqu'à aujourd'hui, le pèlerin se fait humble, petit, pour entrer dans cette basilique de la Nativité où le Christ, selon la tradition, est né. Basilique qui était totalement restaurée ces dernières années et qui compte des colonnes qui ont plus de 2000 ans puisqu'elles avaient été récupérées déjà à l'époque, des colonnes de marbre magnifiques, des mosaïques du 4e et du 5e siècle qui représentent les conciles locaux et les conciles universels. Et puis, en même temps, eh bien, nous avons sous le cœur la grotte de la Nativité, l'endroit où se trouve cette étoile dorée où le pèlerin aime venir se recueillir. Une autre particularité de cette basilique, eh bien, c'est qu'elle est partagée entre différentes confessions chrétiennes. Il y a d'une part les latins, c'est-à-dire les catholiques, on les appelle les latins en Terre Sainte. Il y a également les grecs orthodoxes et puis il y a les arméniens. Chacun a son horaire, chacun a ses chapelles. Ça crée un certain mélange aussi dans la décoration, un certain dépaysement peut-être pour le pèlerin chrétien de Suisse. Mais en même temps, eh bien, on entre bien dans cette orientalité et on voit bien ici que Jésus est le sauveur pour tous. Il y a un peu d'universalité dans cette basilique de la Nativité de Bethléem.
Est-ce que j'ai bien compris, Père Ludovic, que vous disiez que cette basilique était quasi la seule qui était authentique? J'ai bien compris ça.
C'est la seule basilique de Terre Sainte qui remonte encore au IVe siècle, parmi les premières basiliques construites par Constantin. La charpente, par exemple, cette basilique, qui est très belle, a été restaurée. Et quand on l'a restaurée, on a retrouvé des bois de cèdre, liban, beaucoup d'essence d'arbres, mais qui dataient, on a pu dater ces bois, qui dataient justement de 2000 ans et plus, parce que ces bois étaient déjà anciens à l'époque, ou 1800 ans, certains étaient pratiquement pourris, on se demande quand cette charpente, eh bien, a tenu, qu'elle ne s'est pas effondrée avant. Il y a quelque chose un peu qui relève presque du miracle dans cette basilique.
Mais par exemple, la basilique du Saint-Sépulcre, est-ce qu'on est sûr que c'est à cet endroit-là que le Christ a souffert ?
Alors la basilique du Saint-Sépulcre, disons tous nos lieux saints, les traditions sont anciennes. Par exemple, vous parliez de la basilique de la Nativité, la tradition, le lieu, eh bien, ça remonte à Saint-Justin qui authentifie ce lieu. Et les lieux de la Passion du Christ, la tradition est aussi sûre, elle est aussi ancienne, elle remonte au premier temps du christianisme. Mais bien sûr, c'est ce que je dis aussi toujours à mes pèlerins, à ceux qui sont en Terre Sainte, quand on vient en Terre Sainte, on ne vient pas vénérer des pierres ou des lieux, mais on vient célébrer le mystère de notre foi. Et ça, c'est ce qui est premier. Finalement, si c'est ici ou 50 mètres plus loin, c'est pas le plus important. Même si le pèlerin, bien sûr, est particulièrement touché de se dire « je me trouve à l'endroit où le Christ a été crucifié, où il est ressuscité ». Le Saint-Sépulcre est aussi un lieu très particulier et où très vite des chrétiens sont venus y célébrer, où très vite également une basilique a été construite, même deux basiliques, sur ces lieux saints.
Revenir un peu en arrière, c'est-à-dire à l'épiphanie, parce qu'on a basculé directement sur la souffrance du Christ pour nous. Alors à l'épiphanie, fête de la manifestation de Jésus, apparaissent des rois mages. Qui sont-ils et dans quel but sont-ils présents? Mais là, on les trouve seulement dans Saint Matthieu.
Effectivement, c'est le Noël de Matthieu. Si Luc nous parle de Noël avec les bergers, le chant des anges, le Gloria que l'on chante dans la nuit de Noël, eh bien Matthieu, lui, nous parle de la visite de mages venus d'Orient, qui viennent apporter, qui viennent vénérer, adorer cet enfant Dieu et qui viennent lui apporter leur présent, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Notez que nulle part dans l'évangile de Matthieu, il est écrit qu'ils étaient trois ou qu'ils étaient des rois. Ce sont des traditions postérieures, la tradition populaire qui vont donner ces détails, mais qui finalement viennent renforcer le message de Matthieu. Ces rois mages venus d'Orient, eh bien, c'est justement l'universalité. Si Luc nous livre, lui, la naissance dans le cadre des bergers, dans l'intimité de la nuit de Noël avec des bergers de la région de Bethléem, eh bien, Matthieu, lui, nous donne un cadre plus universel. Ceux qui viennent adorer Jésus, ce ne sont plus seulement des Juifs, mais ce sont des païens pour l'époque, ce sont des gens venus d'Orient et de loin. Alors, la tradition postérieure va nous dire que c'était des rois, qu'ils étaient trois, qu'il y en avait un jeune, un homme d'un âge mûr, et puis un ancien, qu'un était jaune, l'autre noir, l'un blanc. Et voyez, eh bien, ça vient renforcer cette universalité. Mm-hmm. Tous les âges, tous les pays, tous viennent adorer et vénérer, se mettre devant, en adoration devant cet enfant de la crèche. Et c'est un très beau message aussi, renforcé par ces traditions plus postérieures.
On disait que c'était des astrologues, c'est vrai ?
Alors, effectivement, ils scrutaient le ciel. Et à l'époque, eh bien, on disait que quand une grande personnalité venait à naître, eh bien, un astre se levait, une étoile se levait. On a dit la même chose pour l'empereur Auguste, par exemple, ou pour Jules César. Et donc, pour Jésus, eh bien, voilà, un astre s'est levé et eux se sont mis en route pour venir le visiter. Et voyez, ici, on rejoint quelque chose de très profond. Quand Saint Paul nous dit la même chose dans, le fond, dans son épître aux Romains, il nous dit que non seulement les hommes nous révèlent Dieu, non seulement la parole nous révèle Dieu, non seulement les sacrements, mais la nature, la création. Parce que cette étoile, c'est la création. Et puis, ces mages, en se mettant en route, eh bien, ils ont pu arriver jusqu'à Jérusalem. La création nous révèle le chemin de Dieu, nous montre la voie pour parvenir à Dieu.
Père Ludovic, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Quel est le message que vous voulez donner à nos auditeurs pour que Noël soit une vraie fête dans tous les cœurs des hommes de bonne volonté ?
Eh bien, la fête de Noël est une fête de la lumière, une fête de la joie, une fête de la famille, une fête de la solidarité, comme je disais en début d'émission. Et je pense que c'est une très belle fête. Une très belle fête pour le chrétien, qui nous rappelle eh bien, que Dieu n'est pas le tout autre, ou n'est pas ce Dieu très loin, ce Dieu absent de notre monde, mais c'est un Dieu qui s'est fait proche de nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est à côté de nous aussi dans ces périodes plus difficiles qu'on peut vivre, et que période difficile pour beaucoup de monde maintenant aussi. Il est un Dieu proche, il est cette lumière entre obscurité, il est ce Dieu qui apporte la joie de notre cœur, si nous sommes prêts à l'accueillir dans notre cœur, à lui faire de la place. Si les Jésus disait, le Christ pourrait naître 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas dans ton cœur, cela ne sert à rien. Eh bien, c'est ça que laisser Jésus naître dans notre cœur et le laisser nous accompagner, être notre compagnon de route.
Merci, Père Ludovic. Très belle fête à vous.
Merci beaucoup.
J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si vous souhaitez recevoir un enregistrement de cette émission, un CD vous sera envoyé. Il vous suffit pour cela de téléphoner au 026 422 18 91. Je rappelle le titre du livre du Père Ludovic Nobel, « Jésus et son monde » paru aux éditions du Cerf. Vendredi, c'est Noël. Justine Lioda se fera un plaisir de vous retrouver. Elle sera en compagnie du chanoine Philippe Blanc, curé de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg. Au nom de toute l'équipe de Coin de Ciel, je vous souhaite une sainte fête de Noël. En attendant, passez une très belle journée, une belle préparation à cette fête de la Nativité. Au revoir. À bientôt, c'était Sœur Marie-Pierre qui a eu beaucoup de joie à vous retrouver pour cette émission.
Radio Fribourg,
Coin de ciel.